Le journal, Yves Decamp.
Bonjour. Les époux Fillon seront jugés en correctionnel. L'ordonnance de renvoi a été signée. L'ancien candidat à la présidentielle est soupçonné d'avoir offert un emploi fictif à son épouse. L'affaire révélée par le Canard enchaîné pendant la campagne de 2017 avait ruiné tous ses espoirs. Nathalie Loiseau sur une liste d'extrême droite. La tête de liste La République En Marche aux européennes était alors étudiante à Sciences Po. Et le regrette.
Avoir figuré sur une liste où il y avait des gens d'extrême droite, c'est une vraie connerie. C'est une erreur de jeunesse, je le regrette. J'aurais dû enquêter, j'aurais dû regarder qui étaient les autres colistiers.
Une gêne en tout cas pour ses soutiens et une aubaine évidemment pour ses adversaires. À propos des européennes, les listes ont depuis ce matin jusqu'au 3 mai pour se déclarer, l'occasion d'évoquer le financement de la campagne par les banques, les emprunts, les dons ou tout à la fois. Invité de ce journal, le tout nouveau médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, Jean-Raphaël Alventosa. Dans ce journal également, le petit-déj à l'école pour 100 000 enfants des quartiers prioritaires. Le ministre Jean-Michel Blanquer a détaillé le dispositif dans une classe de Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise, où Aaron, qui est en CE1, profite déjà du petit-déj en classe depuis l'automne dernier.
On a du pain, du jus de pomme, du beurre, on a de la confiture. Entre la maison et le petit-déj ici, je préfère l'école.
6 millions d'euros seront débloqués cette année pour aider les communes. À suivre encore dans ce journal, l'enquête au Sri Lanka, où les attentats de dimanche ont été revendiqués mais sans preuve par le groupe État islamique. Les terroristes auraient frappé pour venger l'attaque des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande à la mi-mars. Un mort et 6 blessés en quelques jours à Nantes, dans une série de fusillades. Les parents d'un fils handicapé qui demandent réparation pour eux-mêmes au laboratoire belge UCB Pharma, c'est la suite de l'affaire dite du Distilben, et c'est la chronique santé de Daniel Messager. Enfin, dans la famille Mbappé, on demande le petit frère, Ethan Mbappé, futur pépite du Paris Saint-Germain lui aussi, peut-être. Pour l'instant, il entre en stage à Clairefontaine. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
De la pluie aujourd'hui.
Autour de la Méditerranée, oui, parfois soutenue, orageuse. Alors ailleurs, des averses, parfois un orage, plus costaud sur l'Aquitaine en fin d'après-midi avec de la grêle. Pour un temps calme avec un soleil bien voilé tout de même direction le nord de la Seine, le nord-est, quelques ondées possibles en toute fin de journée en Ile-de-France et température en baisse, 16 à 24 degrés.
Le bulletin météo, bien sûr, en fin de journal.
France Inter.
Le petit-déj gratuit à l'école, ce sera donc bientôt une réalité pour quelques 100 000 enfants des quartiers prioritaires. La mesure contenue dans le plan pauvreté annoncé par Emmanuel Macron en septembre se met en place progressivement. Déjà 8 académies sont concernées. L'objectif affiché par le gouvernement, c'est bien sûr que les enfants ne commencent pas la journée le ventre vide pour pouvoir rester concentrés. 6 millions d'euros seront débloqués pour aider les communes à financer la mesure qui d'ailleurs ne fait pas l'unanimité pour le SNUIPP par exemple, le syndicat des professeurs d'école. Est-ce bien à l'école de nourrir les enfants des familles pauvres? En tout cas, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a présenté ce matin les détails du dispositif dans une classe de Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise, où des petits-déj sont offerts aux enfants depuis l'automne dernier. Alexis Morel.
Deux fois par semaine, à Pont-Sainte-Maxence, les enfants arrivent un peu plus tôt à l'école pour y manger.
On a du pain, du jus de pomme, du beurre, on a de la confiture. Entre la maison et le petit-déj ici, je préfère l'école. Parce que l'école, le matin, ça réveille bien. Et après, au moins, tu peux plus travailler. Ici, ça nous donne plus la force.
Ici, tous sont unanimes. Il y a un avant et un après petit-déj à l'école.
Nous, sur l'école, ça a eu que des points positifs.
Jean-Louis Dudec, directeur de l'école Jean Rostand.
Au niveau de la concentration des élèves, on avait moins d'enfants qui étaient fatigués le matin et qui s'endormaient l'après-midi. Les enfants n'en parlent pas, mais peu qui m'en ont parlé ont changé un petit peu leurs habitudes. C'est plutôt, j'avais pas le temps de déjeuner le matin. Maintenant, j'ai compris que c'était important de le faire. Il y en a certains qui m'ont dit qu'ils arrêtaient de manger des gâteaux au chocolat le matin.
Au niveau national, 6 millions d'euros seront débloqués cette année pour les communes qui souhaitent s'engager, car la mesure s'appliquera uniquement sur la base du volontariat. Alors pourquoi ne pas la rendre obligatoire? Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Ce qui est important, c'est de commencer par une prise de conscience. Chaque fois qu'on fait des choses immédiatement obligatoires, il y a des effets contre-productifs. Là, vous voyez, on a un maire heureux, qui a pris sa mesure, qui l'a prise parce qu'il a fait des constats concrets de terrain. et l'État vient en appui de cela.
100 000 enfants pourraient bénéficier de ces petits déjeuners gratuits à la rentrée.
Un reportage d'Alexis Morel. Les époux Fillon en correctionnel. L'ordonnance de renvoi a été signée conformément aux réquisitions du parquet. L'ancien candidat à la présidentielle, soupçonné d'avoir offert à son épouse un emploi fictif, avait été mis en examen en mars 2017 pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. On s'en souvient, c'est ce qui avait fait dérailler sa campagne, Corinne Audouin.
Oui, on s'en souvient, tout est parti des révélations du canard enchaîné début 2017 sur les curieux contrats de travail de Pénélope Fillon entre 98 et 2002, puis à nouveau entre 2012 et 2013. Elle était rémunérée comme attachée parlementaire de son mari. De 2002 à 2007, alors que François Fillon est à Matignon, Pénélope Fillon est embauchée par son suppléant à l'Assemblée, Marc Joulot. Mais personne n'a jamais vu Pénélope Fillon à l'Assemblée et très rarement lors des réunions publiques dans le département. Après enquête, les juges estiment que Pénélope Fillon n'a fourni aucun travail tangible ni pour son mari ni pour Marc Joulot, soulignant, d'après Le Monde qui a eu l'accès à l'ordonnance, l'abus de langage consistant à qualifier de travail de collaborateur parlementaire la plus anodine de ses activités. Les sommes potentiellement détournées se montent à 1 million d'euros. François Fillon sera notamment jugé pour détournement de fonds publics, recel, abus de biens sociaux. Pénélope Fillon pour complicité et recel de détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux. Alors l'abus de biens sociaux, cela vise les 135 000 euros versés à Pénélope Fillon par la Revue des Deux Mondes, dont le propriétaire est un ami de François Fillon, Marc Ladret de la Charrière. Les fiches de lecture fournies pour attester du travail de conseillère littéraire n'ont pas convaincu les magistrats, d'autant qu'entre-temps, Marc Ladret de la Charrière a lui plaidé coupable, a déjà été jugé, ce qui rend la défense des époux Fillon plus compliquée sur ce point. François et Pénélope Fillon encourent jusqu'à 10 ans de prison.
Et l'ancien suppléant de François Fillon, Marc Joulot, est également renvoyé en correctionnel. Une erreur de jeunesse et même une connerie pour Nathalie Loiseau, la tête de liste La République En Marche aux Européennes. C'est ainsi qu'elle explique sa présence en 1984 alors qu'elle était à Sciences Po sur une liste étudiante d'extrême droite, en l'occurrence la liste de l'UED, l'Union des étudiants de droite, émanation du fameux GUD, le groupe Union Défense d'extrême droite, lequel avait été dissous. Et c'est cette parenté que l'ex-ministre des Affaires Européennes dit n'avoir pas perçue à l'époque. Si j'avais identifié des membres du GUD, explique Nathalie Loiseau à Mediapart, qui a rapporté cette information, je n'aurais pas accepté d'y figurer et je regrette d'avoir été associé à ces gens-là. Des regrets qui n'empêcheront pas ses soutiens d'être gênés et ses adversaires, bien sûr, d'en profiter, Karine Bécard.
Oui, quant à Nathalie Loiseau, ce matin, elle s'est très vite rendue à son QG de campagne. Elle tenait absolument à voir son équipe et à s'expliquer devant elle. Elle est apparue visiblement très affectée. Elle se sent piégée par toute cette affaire. Une affaire qui remonte à il y a 35 ans. Une affaire, je cite, tirée par les cheveux, précise son entourage. Parce que celle qui ferraille aujourd'hui contre les nationalistes ne peut pas s'être reconnue un jour dans le combat d'extrême droite. C'est ce qu'elle a tenté d'expliquer ce midi au micro de Simon Le Baron.
Vouloir faire de moi quelqu'un qui soit proche de l'extrême droite, c'est scandaleux. C'est extrêmement blessant de voir ce type d'amalgame, cette mauvaise foi qui consiste à vouloir attaquer une liste qui porte des valeurs en France et en Europe, contre les nationalistes, contre les extrêmes.
Donc voilà, ce serait une erreur de jeunesse, vous l'avez dit Yves, mais c'est une erreur, vous l'avez rappelé alors, mais c'est une erreur à un mois des élections européennes qui fait forcément vivement réagir tous ses adversaires politiques. Yann Brossat, la tête de liste communiste, était ce matin l'invité de France Info.
Les explications qu'elle avance pour justifier le fait d'avoir été présente sur cette liste sont peu convaincantes. Quand elle dit « je n'ai pas perçu la couleur politique de cette liste », alors même qu'elle était en quatrième année de Sciences Po et qu'elle préparait l'ENA, c'est vrai que ça laisse pantois. C'est un peu la Richard Virenque de la politique. Elle était candidate à l'insu de son plein gré.
Et à droite, la tête de liste Les Républicains, François-Xavier Bellamy, estime que cela pourrait obliger Nathalie Loiseau à un peu plus d'humilité, à un peu plus de simplicité. Évidemment, tout le problème est là. L'ancienne ministre des Affaires européennes a basé toute sa campagne en opposition avec d'un côté les progressistes, elles donc qui doivent combattre les nationalistes. Avec cette révélation, sa stratégie en ressort pour l'instant sévèrement amoindrie.
Et on peut rappeler quelques précédents célèbres, hein, Karine, oui, Jospin lambertiste, Chirac aux jeunesses communistes ou Mitterrand chez Pétain. Voilà, erreur de jeunesse.
Il y en a d'autres.
Disaient aussi les intéressés. Dans un mois, les européennes, le 26 mai précisément, depuis ce matin 9h, peuvent être déposées les listes listes de candidats qui devront être déclarés dernier délai vendredi 3 mai à 18h. Tout est donc encore possible. Avec un élément fondamental à prendre en considération pour tous ceux qui vont faire campagne, c'est le coût de leur engagement, dont une partie sera remboursée si la liste obtient au moins 3% des suffrages. On estime qu'il faut entre 800 000 et 1 million d'euros pour les affiches, les bulletins, les professions de foi, sachant que les remboursements sont plafonnés, les dépenses autorisées également. Bref, à chacun d'ajuster ses moyens selon ses ambitions, et pour beaucoup de partis ou mouvements divers, ce sera un peu la grande débrouille. Invité de ce journal pour en parler, Jean-Raphaël Alventosa, médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques. Bonjour.
Bonjour.
C'est une fonction toute nouvelle, créée par la loi pour la confiance dans la vie politique, la toute première loi de ce quinquennat. On va y revenir. D'abord, ce témoignage ce matin sur France Inter, témoignage de la tête de liste du mouvement des Patriotes, Florian Philippot, sur ce thème justement du financement de sa campagne.
Nous n'avons évidemment aucun financement public et nous n'avons aucun financement bancaire. Donc nous avons les financements de nos donateurs et les financements de candidats qui sont sur la liste et qui peuvent contribuer. Il faudrait mettre en place la banque de la démocratie, honnêtement. J'entends des partis qui s'en plaignent mais qui croulent sous les millions. Nous, honnêtement, on s'en plaint à raison.
Alors la banque de la démocratie, on va en dire un mot. D'abord, Jean-Raphaël Alventosa, un mot sur votre rôle, puisqu'il est tout neuf, tout nouveau. Vous êtes un peu l'interface entre la politique et les organismes de crédit, c'est ça?
Exactement. Le contexte a relativement changé ces dernières années, au plan économique, au plan bancaire, au plan financier, avec différentes crises qui conduisent à contrôler les banques et à faire en sorte qu'elles ne prêtent pas à n'importe qui, comme ça s'est passé dans certains pays, ça a coûté assez cher. Et puis au plan politique, parce que les partis historiques ont vécu quelques événements un peu compliqués ces dernières années, et donc les parlements nationaux et également européens ont un peu resserré à la fois les critères bancaires et les critères politiques, et il faut cocher, pour parler de manière un peu médiatique, plusieurs cases, beaucoup de cases pour obtenir un prêt, mais c'est un peu le droit commun, puisque quand on se présente dans une banque pour obtenir un prêt, en général, on n'a pas un chèque au bout de deux heures.
Parce qu'on n'a pas l'impression que cela fonctionne très bien, puisque deux partis, Rassemblement National et France Insoumise, ont été obligés de lancer un emprunt.
Alors je peux pas donner le diagnostic que je connais, et le fond des dossiers et des relations commerciales entre les partis et les banques, mais ces partis ont fait état effectivement de difficultés. Ils ne se comparent pas tout à fait au plan technique entre les critères des uns et des autres, mais qu'ils lancent un appel à dons, c'est pas non plus totalement anormal, puisqu'il y a trois sources de financement d'un parti politique. D'abord les militants, les sympathisants, les élus qui peuvent cotiser. C'est la première source, il faut pas l'oublier. Et puis deuxièmement, la France a choisi il y a maintenant une trentaine d'années de donner de l'argent des contribuables. On donne 70 millions par an aux partis. Et c'est un système très ancien que connaissent très bien les trésoriers des partis.
Enfin, ce sont déjà les partis les plus riches qui reçoivent le plus.
Non, c'est pas les partis les plus riches, c'est les partis qui gagnent les dernières élections. Et donc ça dépend un peu des élections. Et c'est pas les mêmes à chaque élection. Donc effectivement, il y a une courbe un peu sinusoïdale de ceux qui sont riches à un moment donné et qui le sont plus ensuite. Ce qui me fait dire en tant que technicien qu'il faut faire attention parce que dans les années qui viennent, ceux qui sont riches aujourd'hui ne le sont pas forcément. Et puis il y a une troisième source lorsqu'on n'a pas assez d'argent de ses militants, lorsqu'on n'a pas assez d'argent de l'État et qu'on veut faire une campagne électorale importante, parce qu'on peut évidemment caler le niveau de la campagne en fonction des sondages, par exemple, compte tenu de ce qu'on veut faire, et ben on peut faire appel aux banques. Et quand on se présente aux banques, il faut déposer un dossier, il faut négocier, il faut dire ce qu'on veut faire, il faut respecter les critères légaux nationaux et européens, encore une fois.
Alors justement, un mot de cette banque de la démocratie dont parlait Florian Philippot et que proposait aussi François Bayrou en son temps, c'est une bonne idée ?
Écoutez, moi je suis pas chargé de mettre en place la Banque de la démocratie. En revanche, je suis chargé, après avoir tenté de faire fonctionner le système, de dire, et ce sera un moment important du rapport que je déposerai devant le Parlement et devant l'exécutif après la campagne, de dire si le dispositif fonctionne ou fonctionne pas. Il est clair, me semble-t-il, d'un point de vue technique, que si j'arrivais à démontrer techniquement qu'il y a une faillite absolue du système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque qui finance, ou très très peu, qu'il y a beaucoup de partis qui n'ont pas de crédit, il faudrait envisager quelque chose. Est-ce qu'il faudrait aller immédiatement vers la solution de la Banque de la démocratie ? Je ne sais pas, je poserai la question. Je ferai de toute façon un certain nombre de propositions de réforme assez importantes, je crois, on verra le moment venu, pour que le dispositif actuel fonctionne mieux.
Alors justement, Donc il n'est pas satisfaisant. Si vous souhaitez qu'il fonctionne mieux, rappelons-le, hein, pour les européennes, il y a un plafond, 9 200 000 euros de dépenses maximum. Un peu plus de 4 millions d'euros seront remboursés, maximum, là aussi, si on atteint les 3% de suffrage, en précisant que les affiches et les bulletins officiels, eux, quoi qu'il arrive, sont remboursés. Ce système-là, donc, vous dites, n'est pas satisfaisant.
Il n'est pas satisfaisant si on veut qu'il fonctionne de manière totalement harmonieuse et peut-être plus facile qu'aujourd'hui. Et donc, par exemple, vous avez dit tout à l'heure que quelques partis, ceux qui viennent de gagner les élections, sont en général plus riches. Ce qui veut dire que ceux qui sont derrière et qui n'ont pas gagné les élections sont moins riches. On peut examiner ce système. Par exemple, si
la prime au gagnant n'est pas forcément juste.
Exactement. La prime majoritaire n'est pas forcément... C'était une très bonne chose lorsqu'on l'a créée. Aujourd'hui... Quelques dizaines d'années après, on peut réfléchir sur ce système-là. Il y a d'autres réformes. Il y a plusieurs réformes qu'on pourra proposer avant d'arriver à la réforme de la Banque de la Démocratie, dont il faudrait connaître les conditions de fonctionnement. La première étant qu'on peut se demander si une Banque de la Démocratie pourra s'exonérer des critères légaux, politiques, réglementaires, bancaires. La question sera posée au Parlement.
Jean-Raphaël Alventosa, médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Je vous en prie.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Jour de deuil au Sri Lanka, deux jours après les attentats qui ont fait 310 morts au dernier bilan. Attentats qui visaient dimanche 4 hôtels et 3 églises, les pires qu'ait connu le pays depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans. Une quarantaine de personnes en lien avec un groupe islamiste local ont été arrêtées. Le groupe État islamique a revendiqué tout à l'heure ces attentats. On va y revenir aujourd'hui. L'île entière rend hommage aux victimes. Des cérémonies funèbres sont organisées, notamment sur les sites frappés par les explosions. Fernando, par exemple, est venu à Colombo pour enterrer son neveu. Il est au micro d'Antoine Guinard.
Ma sœur et son fils aîné sont morts dans ces attaques à la bombe. Ma famille vient aussi aujourd'hui. Elle doit venir au cimetière à 15h. C'est l'heure de la messe. Mon neveu est mort dans l'explosion à l'église Saint-Antoine lors de la cérémonie de Pâques. Il était jeune. Il avait 35 ans. Il n'était pas marié.
Du côté de l'enquête, les autorités ont mis en cause un groupe islamiste local dont on dit ce matin qu'il aurait agi en représailles aux attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande. L'attaque de deux mosquées le 15 mars dernier avait fait 50 morts. Mais le plus étonnant dans cette affaire, c'est que le gouvernement de Colombo reconnaît avoir été informé par les services de renseignement indiens d'un risque d'attentat qui visait des églises, information qui ne serait pas remontée jusqu'au Premier ministre. Le point sur cette enquête à New Delhi, Sébastien Farcy.
C'est une note confidentielle datée du 11 avril, soit 10 jours avant les attentats, et elle détaille avec précision l'identité et les mouvements de plusieurs membres du National Tawhid Jamaat, l'organisation accusée aujourd'hui d'avoir perpétré ces attaques. Cette note prévient que son chef, Mohammad Zaharan, appelle les musulmans à se venger de l'attentat contre la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande et incite pour cela à tuer tous les non-musulmans. Les services estiment alors que cet islamiste serait en train de préparer des attaques contre des églises au Sri Lanka. Les agents de renseignement connaissaient donc l'imminence de cette attaque, mais l'information semble s'être perdue à cause du conflit politique entre le président et le premier ministre. Le chef de l'État a en effet tenté de renvoyer son premier ministre en octobre dernier, ce qui a été annulé et a plongé le pays dans une longue crise politique. La sécurité s'est alors affaiblie, ce qui a peut-être facilité le travail de ces terroristes. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Et les attentats ont donc été revendiqués ce matin par le groupe État islamique qui n'a toutefois fourni aucune preuve. Parmi les personnes interrogées pour l'enquête figurerait aussi, dit-on, un ressortissant syrien. Une nouvelle arrestation en Algérie. Issab Redrab, le PDG du premier groupe privé du pays, Cevital, considéré également comme la première fortune d'Algérie. Il a été incarcéré dans la nuit dans le cadre d'une enquête anticorruption. En Irlande du Nord, la nouvelle IRA s'excuse. Le groupe nationaliste irlandais dissident admet sa responsabilité dans la mort d'une journaliste, Lyra McKee, tuée par balle jeudi soir. Elle se tenait à côté des policiers qui faisaient face à des manifestants à Londonderry et elle aurait été victime d'un tir qui ne lui était pas destiné. Événement tragique, souligne l'organisation qui présente ses excuses à la famille. Ce matin, les enquêteurs ont arrêté une femme de 57 ans. En France, c'est un combat sans fin avec un arsenal législatif pourtant important. La France, où vit la plus grande communauté juive d'Europe, peine à contrer la résurgence des actes antisémites. C'est notre échec, avait dit Emmanuel Macron, recueilli devant les tombes profanées de Katzenheim dans le Bas-Rhin au mois de février. 1 100 000 victimes d'actes racistes et antisémites ont été recensées en 2017 et pourtant, seulement un peu plus de 6 000 poursuites ont été engagées et c'est là que le bât blesse pour Jean-Marie Delarue qui présentait ce matin le rapport annuel de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme dont il est le président.
Beaucoup de personnes n'osent pas se présenter, même au commissariat. C'est-à-dire il y a un volume d'abandon, si je puis dire, considérable, de gens qui ont de quoi se plaindre, mais qui ne viennent jamais au commissariat parce qu'elles pensent que ça ne sert à rien. Celles qui viennent sont plus ou moins bien reçues dans les commissariats ou les gendarmeries, et on leur dit, écoutez, faites une main courante, c'est-à-dire on prend note de vos dépositions, mais on refuse d'enregistrer la plainte. Donc il y a ce deuxième obstacle. Le troisième obstacle, c'est que l'établissement de la preuve est extrêmement difficile à rapporter. Quand on a agressé quelqu'un, est-ce que c'est parce qu'il était juif ou musulman ou pas ? Ça demande du temps, ça demande des effectifs, et donc il faut renforcer à cet égard les moyens dont disposent les services de police et de gendarmerie. Et enfin, au bout de la chaîne, il faut que les parquets, eux aussi, traitent avec sérieux ces questions et que les juges condamnent sévèrement une fois que les choses sont établies.
Jean-Marie Delarue au micro de Sébastien Sabiron sur l'indice de tolérance également révélé par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. La communauté rom figure tout en bas de l'échelle. Les noirs sont tout en haut, suivis des juifs. Encore un règlement de compte à Nantes la nuit dernière. Un jeune homme de 23 ans tué par balle dans un bar du centre-ville où des douilles d'armes automatiques ont été retrouvées. Les patrouilles de police avaient pourtant été renforcées après une série de fusillades ces derniers jours dans l'agglomération. Avant la victime de cette nuit, 6 personnes avaient été blessées dans 2 quartiers de Nantes et en banlieue à Saint-Herblain. Fabien Cazzola.
Devant la vitrine du bar à Chicha, les douilles de calibre 7,62 ont été soigneusement enlevées par les enquêteurs de la police judiciaire, remplacées ce matin par des ronds orange dessinés à la bombe. Tout est allé très vite, raconte ce riverain.
Avec ma chérie, on entend 4 coups de feu, 4 coups de feu un peu espacés, mais un peu énormes quand même. Et puis là, on met la tête par la fenêtre et puis on voit effectivement une voiture avec 2 scooters, moi je vois un mec qui sort du Moonlight avec fusil à pompe, je m'y connais pas en fusil mais ça ressemble à ça. Puis voilà, après c'est très très vite, je vois plein de mecs qui sortent un corps un peu inerte. Il y a une voiture qui se barre à toute vitesse, à mon avis, pour aller à l'hôpital, parce qu'il n'y avait pas d'ambulance et les flics sont arrivés une dizaine de minutes après, quoi.
L'homme de 24 ans, employé de ce bar à chicha du centre-ville, est mort à l'hôpital. Selon nos informations, il serait une victime collatérale. Ces derniers jours, les fusillades se sont multipliées à Nantes, 6 blessés par balle en l'espace de 5 jours. Peut-on faire un lien entre elles ? Pour le moment, le parquet de Nantes se refuse à tout commentaire. À Nantes, Florian Cazzola, France Bleu Loire-Océan pour France Inter.
Il avait inscrit un flic suicidé à moitié pardonné sur sa camionnette, un gilet jaune de Montauban, âgé de 69 ans, en garde à vue depuis hier, a été remis en liberté ce matin. Mais il sera convoqué au tribunal en juillet et d'ici là, il est interdit de manifestation. La chronique santé du mardi, bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
J'en parlais en titre, un nouveau procès est donc en cours dans l'affaire du Distilben, ce médicament donné pendant près de 30 ans aux femmes enceintes.
Alors il était prescrit pour lutter contre les fausses couches depuis 1948. Au bout de plusieurs années, des inquiétudes sont apparues à cause d'effets secondaires graves comme des cancers. Aux États-Unis, il a été interdit en 1971, mais ce ne fut le cas qu'en 1977 en France. Et les effets du Distilben sont apparus chez les filles des femmes à qui on l'avait prescrit, là aussi risque de cancer, difficulté pour avoir des enfants eux-mêmes victimes, et on passe à la troisième génération.
Et c'est donc le cas de Sylvie Lecossec.
Dont un des fils, Julien, est né polyhandicapé. Elle a entamé plusieurs procès contre le laboratoire qui a commercialisé le Distilben, UCB Pharma. Si le handicap de son fils a bien été reconnu, c'est la reconnaissance des parents victimes qu'elle demande aujourd'hui en raison de leur vie bouleversée.
Julien a un triple handicap, visuel, moteur et intellectuel. Il a l'autonomie d'un enfant de 2 ans. Et aujourd'hui, il a 20 ans. Il fallait trouver des structures. Nous sommes passés par une halte garderie qui a fonctionné 2 heures. Ensuite, une école maternelle qui n'a pas fonctionné. Ensuite, trouver des foyers. Au bout de quelques années, nous avons trouvé un foyer adapté et aussi un tas de rendez-vous, les kinés, les orthoptistes, les orthophonistes, etc., etc. Julien fait des crises épileptiques, même s'il est dans un foyer. Le foyer a un protocole, il doit nous appeler. Nous sommes appelés à 2h du matin pour une crise épileptique parce que Julien est dans un SAMU, il part au CHU et nous nous retrouvons à 3h du matin au CHU de Nantes pour voir avec Julien un neurologue. Il n'y a pas une semaine qui ne se passe pas comme ça.
Impossible donc de lâcher prise pour les parents de Julien qui ont dû mettre leur vie professionnelle entre parenthèses et c'est cette réparation qu'ils demandent aujourd'hui.
Nous serons à vie de toute façon liés et victimes de ce Distilben parce que Julien sera à vie avec une autonomie d'un enfant de 2 ans. Et là pour nous c'est important parce que le procès pour Julien a aidé d'autres familles et nous c'est ce qu'on veut. C'est pas que ma vie, c'est pas que celle de Julien, c'est la vie de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants, ça peut sauter une génération. Voilà, le poison est dans les veines.
Car si l'autre fils de Sylvie Lecossec n'a aucun handicap, qu'en est-il des enfants qu'il aura plus tard? Eh bien, personne ne peut encore répondre à cette question.
La chronique santé de Daniel Messager. À Grenoble, on l'appelle le chirurgien de l'horreur. Après avoir été suspendu au début de l'année par le Conseil de l'Ordre, on apprend aujourd'hui qu'il faisait aussi l'objet d'une enquête préliminaire. 6 patients ont déjà porté plainte contre lui. 6 patients dont la vie a parfois été brisée et qu'il accuse d'irrégularité, d'incompétence. C'est par exemple une patiente opérée à plusieurs reprises pour une double fracture de la cheville et qui a dû pour finir se faire amputer. La Sécurité sociale avait compté dès la fin 2016 plus de 50 dossiers suspects. Allez, en sport, tel frère, peut-être. En tout cas, c'est bien un jeune Mbappé qui est convoqué ce mardi à l'Institut National du Foot de Clairefontaine pour un stage probatoire d'admission. Ethan Mbappé, 13 ans, déjà en préformation ou ça au PSG, pétri de talent paraît-il, mais qui va devoir se faire un prénom. La pression est forte pour lui évidemment, d'où le cocon protecteur dont à juste titre ses parents l'entourent, Cécilia Arbonnat.
Ethan Mbappé a débuté le football à l'âge de 6 ans avec son père Wilfried, éducateur sportif à l'AS Bondy. Le papa a donné une consigne stricte aux dirigeants du club de Seine-Saint-Denis. Pas un mot sur Ethan, c'est normal, il est mineur, on doit le préserver, résume Jean-François Suner, directeur sportif, qui n'en dira pas davantage. Le message est passé aussi à l'hôtel de ville. Un proche de Madame le maire soupire, la pression est déjà forte comme ça sur le petit, on le compare toujours à Kylian. Est-ce pour se démarquer de son aîné aux cheveux ras qu'Ethan arbore une coiffure rasta avec des dreadlocks. Le Benjamin doit trouver sa voie, loin du tumulte. Le père y veille en le protégeant physiquement de sa stature imposante. Autre sentinelle attentive, la mère, Faïza Lamari, ancienne handballeuse. Elle gère l'image et les intérêts de Kylian avec une avocate, Delphine Vereden. La juriste cultive le silence, comme les parents, qui sont à la fois les agents de leur garçon et les garants de leur bien-être.
Cécilia Arbonnat, les dreadlocks, effectivement, pour marquer de la tête. C'est pas toujours évident, le temps.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Élodie Calac, un temps perturbé mais encore doux.
Autour de la Méditerranée, on a du vent, des pluies parfois marquées et orageuses sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Seulement quelques averses vers le Roussillon. Ailleurs, c'est souvent bien nuageux avec quelques averses, parfois un orage. Une dégradation plus marquée gagne l'Aquitaine en seconde partie d'après-midi avec des orages parfois forts et de la grêle. Entre le nord de la Seine et l'Alsace, c'est plus calme sous un soleil bien voilé. En région parisienne, on n'est pas à l'abri de quelques ondées. Les températures amorcent leur baisse. Seulement 16 degrés à Montpellier et à Toulon. Encore 21 degrés
réservés à Honfleur, Brest, Lyon, 22 à Lille, Mulhouse ou Bordeaux, 24 à Paris. Demain, ça continuera de baisser côté thermomètre, souvent 15 à 20 degrés, 20 à 25 sur le nord-est. Ce sera agité sur la plupart des régions avec du vent, des averses et parfois de l'orage, surtout dans l'est du pays.